Jésus entre en roi dans Jérusalem en fête, et 5 jours plus tard, il sera cloué sur une croix. Voilà bien le paradoxe de ce dimanche des rameaux. Un jour qui ne peut faire autre chose que de pointer du doigt vers la Pâque. Oui, nous arrivons petit à petit à ce temps de Pâques, à cette période unique pour nous chrétiens. Une période unique parce que nous allons célébrer simplement tout ce qui fait que nous sommes ici aujourd'hui. Toute la raison d'être de notre communauté. Tout ce qui nous pousse à nous rassembler dimanche après dimanche. Nous allons célébrer le cœur de notre foi en contemplant le Fils unique de Dieu mourir sur la croix un vendredi dans la journée et sortir du tombeau un dimanche à l'aube. Et nous allons nous rappeler que tout cela, il l'a fait pour nous, pour notre salut plus précisément. C'est-à-dire pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pardonnés et sauvés de sa colère, pour que nous soyons dès maintenant en paix avec lui et un jour au ciel à ses côtés. Oui, voilà ce que nous célébrons pendant ce temps de Pâques. Notre salut acquis à la croix. Et donc, au cours de cette période qui vient nous parler de ce salut si merveilleux, j'avais personnellement à cœur de partager justement avec vous quelques-unes des vérités uniques qu'il contient. J'avais à cœur que l'on puisse prendre le temps de nous y attarder. Et je vous propose de faire cela à partir de ce texte d'Ésaïe, qu'Irène nous a lu en 3 fois. Un texte idéal, me semble-t-il, pour aborder cette question du salut. Et nous allons découper ce texte en 4, en fait, et donc en 4 prédications. Tout d'abord, dans ce temps qui encadre Pâques, nous allons nous attacher à découvrir ou à redécouvrir 2 caractéristiques incroyables concernant le salut de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de sa gratuité à travers le verset 1 d'Ésaïe 55. Et dans 15 jours, à partir du verset 2, nous verrons sa suffisance. 2 vérités qui encadrent Pâques à saisir pleinement. Puis ensuite, 2 autres fois, en mai et juin, nous verrons les comportements qu'est censé induire cette promesse de salut. Une décision d'abord, avec les versets 6 et 7, et une dynamique de vie ensuite, comme conséquence des versets 11 et 12. Voilà pour le programme que je vous propose. Et nous démarrons donc de suite aujourd'hui avec cette question de la gratuité. La gratuité, une réalité centrale du salut de Jésus-Christ, parce qu'une réalité qui va avoir tellement de conséquences sur notre façon de voir Dieu et notre façon de nous approcher de lui. Oui, la gratuité du salut, une réalité unique. Et nous la découvrons donc au travers du premier verset de cette prophétie d'Ésaïe. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez sans argent. Oui, sans paiement, du vin, du lait. Venir acheter sans argent. Quelle affirmation, n'est-ce pas? Un peu déroutante, peut-être. Pas très habituelle, en tout cas. Laura et moi allons au Leclerc toutes les semaines, mais je peux vous assurer que nous n'avons encore jamais vu une telle affaire. Venez acheter sans argent. Et en plus, la Bible persiste et signe avec de telles paroles, puisqu'on en trouve de semblables ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse notamment. « À celui qui a soif, je donnerai, moi, c'est Jésus qui parle, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. » Gratuitement, recevoir gratuitement. L'eau, le vin, le lait, tout est gratuit ici. Et on se rend compte à quel point cette annonce est en décalage avec nos modes de fonctionnement à nous. Acheter sans argent, ce n'est pas cohérent. Aucun système ne pourrait fonctionner ainsi. Mais c'est pourtant l'affirmation de Dieu pour nous aujourd'hui. L'eau, le vin et le lait, image et symbole ici dans le texte de notre salut, c'est-à-dire symbole de notre acceptation par Dieu, symbole de notre accès à la vie éternelle, au paradis avec Dieu, symbole aussi d'une relation retrouvée avec lui. L'eau, le vin et le lait sont entièrement, totalement et complètement gratuits et offerts. Le salut présenté par la Bible et la foi chrétienne est entièrement, totalement et complètement gratuit et offert. Et oui, c'est une réalité absolument unique dans notre monde. Et notamment dans le monde des religions, qui s'évertuent toutes d'une manière ou d'une autre à gagner leur salut. Mais il n'en est pas ainsi avec le Dieu de la Bible. Même si malheureusement, et on le sait que trop bien, le message chrétien a lui aussi trop souvent glissé dans ce sens, devenant finalement une religion parmi d'autres. Mais pourtant, non, tellement non, les textes nous le disent si bien, ce texte nous le dit si bien. Il n'en est pas ainsi avec le Dieu de la Bible. Son salut est gratuit. Et c'est une différence qui change vraiment tout. Aussi, parce que c'est une différence qui change tout, nous allons maintenant essayer de creuser cette question un peu plus en profondeur. Et nous allons démarrer, assez paradoxalement en fait, vu ce que je viens de dire, mais nous allons démarrer sur la base de ce texte en commençant par parler des conditions du salut. Parce que oui, il y a des conditions pour avoir part au salut de Dieu. Des conditions essentielles même. Trois conditions dans le texte. Mais rassurez-vous, si besoin, ces conditions ne toucheront à aucun moment, pas même du bout des doigts, nous allons le voir, à la gratuité de ce salut. On pourrait dire en fait que ce sont plutôt trois nécessités préalables et on ne peut plus naturelles avant de pouvoir boire, tout simplement. Mais alors, on va quand même prendre du temps pour les détailler, ces trois nécessités préalables. Car en fait, on va s'en rendre compte, si elles ne sont pas là, au fond, parler du salut gratuit de Jésus-Christ n'aura plus vraiment de sens. Donc allons-y. Première condition. Vous tous qui avez soif. Eh oui, de manière évidente, pour venir boire à une source, il faut effectivement d'abord avoir eu soif. Sinon, on risque d'être un bois sans soif, comme nous le dirait le capitaine Haddock. Et il s'y connaît, n'est-ce pas? Mais ça n'aurait pas vraiment de sens. Et la Bible a du sens. Ceux qui sont appelés à venir boire sont ceux qui ont soif et pas les autres. Autrement dit, ceux qui sont appelés au salut sont ceux simplement qui désirent être sauvés. Ceux qui désirent être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Ceux qui désirent vivre avec Dieu. Et c'est une évidence, évidemment. Mais force est de constater qu'il n'en est pas ainsi de tout le monde. Tout le monde n'a pas cette soif. Je me souviens à ce sujet, il y a quelques années, avoir entendu un sketch de Patrick Timsit, acteur et comique français assez connu, un sketch sur le paradis. Et je vous en lis un extrait symptomatique, me semble-t-il, de ce que certains, effectivement, pensent. « Sur Terre, on vous fait rêver de quoi ?» dit Timsit. « Du paradis ? Ouais, ben moi je veux aller en enfer. Vous allez au paradis et la première chose que vous faites, c'est aller dîner avec l'abbé Pierre et mère Teresa. Bonjour, la soirée minable. T'arrives au paradis, tu vas bouffer des légumes et des légumes cuits à la vapeur, alors que sur terre, tu t'es déjà embêté à bouffer des légumes parce qu'on te promettait d'aller au paradis. Et ainsi de suite. Je m'arrête là parce qu'après, ça devient vite vulgaire. Alors, on appréciera ou pas, peu importe l'humour de cet homme. On s'étonnera, on s'attristera peut-être même de l'image qu'il se fait du paradis et de la façon dont on y entre. Mais pour ce qui nous concerne, on relèvera surtout la chose suivante qui ressort ici avec force. Beaucoup, en effet, n'en ont rien à faire de Dieu et de la vie éternelle. Beaucoup n'ont absolument pas soif. Et beaucoup donc ne voient et ne verront aucun intérêt à ces paroles et à cette invitation de Dieu. Parce que large, nous dit la Bible, large est le chemin qui se tient loin de Dieu et nombreux sont ceux qui le prennent. Mais voici donc la première nécessité naturelle pour être sauvé et avec Dieu. En avoir envie, tout simplement. En avoir soif. Et je me permets donc de nous poser à tous cette question ce matin. Avez-vous soif de Dieu? Avez-vous soif d'être avec lui? Dès maintenant, dans une vraie relation et pour toujours dans l'éternité. Et alors vous allez me dire, quand même oui, on est dans une église, on est là pour ça. Oui, sans doute. Mais pourtant, je ne suis pas sûr que ce soit forcément une réponse si évidente pour nous tous, même ici dans une église. Car ne nous leurrons pas, on peut tout à fait venir à l'église, même régulièrement, pour plein d'autres raisons que pour réfléchir au salut de son âme. On peut y venir par habitude, par tradition. On peut y venir pour l'amitié ou pour le sentiment de se sentir accueilli et aimé. Et ainsi de suite. Mais la Bible, comme toujours, veut vraiment nous mettre en face des vraies questions. Et donc, elle dit à chacun d'entre nous ce matin, « Pourquoi viens-tu ici ? As-tu vraiment soif de Dieu ? As-tu vraiment envie de son salut et d'une vie avec lui ?» Il appartiendra à chacun de lui répondre. Mais en tout cas, je nous invite vraiment tous à nous prononcer dans notre cœur et à ne pas repousser sans cesse cette réponse, pour ne pas nous maintenir dans une sorte d'illusion quelque part. D'ailleurs, il me semble de toute façon qu'on est tous concernés par une telle question, où qu'on en soit en fait. Et même si nous avons déjà répondu par l'affirmative, il y a de cela plus ou moins de temps, même là, répondant une nouvelle fois. Ne serait-ce que pour être sûr qu'on ne se soit pas endormi avec les années et que l'Église ne soit pas devenue pour nous, petit à petit, un lieu où la vie avec Dieu n'est finalement plus qu'au second plan, étouffée par plein d'autres préoccupations. Oui, posons-nous tous cette question. Ai-je soif de Dieu ? Voici un premier point essentiel. Et puis je continue. Deuxième condition maintenant. Vous qui n'avez pas d'argent. Voici ici aussi, sans aucun doute, un autre point fondamental. Que nous dit cette parole ? Eh bien, que pour venir profiter de ce don de Dieu, de ce cadeau qu'il nous fait, il nous faut au préalable avoir pris conscience qu'on n'a pas de quoi l'acheter. Il nous faut admettre qu'on n'a pas l'argent pour cela. Autrement dit, pour avoir part au salut offert par Jésus-Christ, il nous faut d'abord prendre la mesure de notre propre insuffisance à le mériter, à le gagner. Il nous faut d'abord prendre la mesure, en fait, de notre propre perdition. Et là encore, L'expérience nous montre que cela n'a rien d'une évidence, cette prise de conscience. Et personnellement, j'ai si souvent entendu autour de moi des remarques telles que « Moi, je pense avoir été globalement une bonne personne. » Ou alors « Moi, je n'ai jamais vraiment rien fait de mal dans ma vie. Je pense donc que je mérite ma place auprès de Dieu et qu'il m'acceptera. » Et quelque part, je trouve que c'est assez naturel de penser ça. Presque cohérent même, humainement. Mais pourtant, la Bible nous répète sans cesse qu'il n'y a en fait rien de plus dangereux que de telles pensées. Qu'il n'y a rien de plus dangereux que de croire qu'on a suffisamment pour que Dieu nous accepte. Ou plutôt même de croire que Dieu s'adaptera et passera sur nos petites ou nos moyennes fautes puisqu'on n'en a pas fait de grandes. Ça, c'est vraiment un raisonnement classique, je crois. Mais une telle vision contient pourtant deux graves erreurs, et deux erreurs qui coûtent cher, parce qu'elles nous empêchent simplement, en nous croyant ainsi assez riches, de venir saisir ce salut gratuit. Aussi, il convient de mettre ces deux erreurs en lumière ici. La première erreur sera celle qui cherche donc à catégoriser la gravité de nos fautes et qui nous fera dire, une fois qu'on les aura vite rangées dans la catégorie « pas très grave », parce que bien sûr, c'est en général ce qu'on fait tous, qui nous fera dire eh bien, que nous sommes donc de bonnes personnes. Oui, il y a beaucoup de bonnes personnes sur Terre. Oui, soyons-en sûrs, presque personne ne se classe naturellement de lui-même dans la mauvaise catégorie. Alors certes, c'est vrai, c'est évident même, il y a des graduations dans le mal. On est tous d'accord. Et beaucoup d'entre nous n'iront pas dans les pires niveaux. Heureusement d'ailleurs. Voler une banque, c'est grave. Et nous ne le faisons pas parce que nous sommes des gens bien. Oui, d'accord. Mais parfois, je ne peux pas m'empêcher de me demander quand même si nous sommes ainsi bien à cause d'une vraie et profonde conscience morale ou bien alors juste parce qu'on a peur de se faire prendre et des conséquences qui s'en suivraient. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est vrai, après tout, si on réfléchit un peu. Je reprends mon exemple. Personne ou presque, on l'a dit, ne va voler une banque. OK. Mais alors pourquoi tant et tant de personnes, 9 millions en France, d'après une étude faite il y a une dizaine d'années, volent des œuvres téléchargées illégalement sur Internet ? En quoi est-ce différent, au fond, si ce n'est qu'on est à peu près sûr de ne pas se faire attraper ? Mais du coup, que nous apprend cet exemple, parmi tant d'autres évidemment, sur notre vraie nature profonde ? Autre illustration. Que dire de celui qui se croit bien parce qu'il ne fait pas directement de mal aux gens à côté de lui ? Mais qui, pour autant, ne vient pas en aide à celui qui est dans le besoin juste là ? Oui ? Que dire de celui qui ne vole pas les autres, certes, mais qui les oublie néanmoins pour continuer à profiter toujours un peu plus de ses biens et de ses plaisirs ? Ce genre d'indifférence, au fond, est-elle moins grave ou finalement aussi mauvaise que le reste ? Dieu ne dit-il pas « Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché ?» Et ainsi de suite. On pourrait multiplier les exemples. Et alors, certains se sentiront peut-être un peu mal à l'aise devant de telles paroles, je ne sais pas. Certains se trouveront peut-être même culpabilisés. Eh bien, si c'est le cas, permettez-moi juste d'oser vous dire, tant mieux. Oui, tant mieux, parce que s'il y a bien sûr, on est d'accord, une culpabilité malsaine, ce poison qui s'insère en nous et qui nous empêche d'avancer et qu'il nous faut combattre. Il y a néanmoins aussi une saine culpabilité. Et c'est d'elle, me semble-t-il, qu'on parle ici. Oui, la saine culpabilité, c'est celle qui va me permettre de voir mon péché et ma vraie nature en face, tels qu'ils sont. Et par là même de reconnaître qu'au fond, au fond de mon cœur, au-delà des apparences, eh bien, je ne suis peut-être pas aussi bon que je ne l'aurais imaginé. Oui, on a tous besoin de cette culpabilité-là. C'est en tout cas la réalité que la Bible met en face de nous. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble, il n'y en a pas qui fasse le bien, non, pas même un seul. Tout le monde, dit la Bible, est ainsi par nature. Et cela nous amène à notre deuxième erreur. Car je me dis, après tout, si on s'arrêtait à ce premier point, il y en aurait peut-être quand même qui s'en sortiraient avec les honneurs. C'est vrai, ceux qui veillent scrupuleusement à leur moralité et à leur conscience en tout point, ceux qui mènent une vie exemplaire, chrétien ou pas d'ailleurs. Et c'est super. Oui, c'est super, mais tant qu'on n'en vient pas à penser que ça devient suffisant. Parce que soyons-en sûrs, c'est loin d'être suffisant. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'au-delà de toutes ces questions morales, l'essence même du péché, sa nature profonde, elle se trouve simplement dans notre rébellion contre Dieu. C'est-à-dire simplement dans notre volonté d'indépendance vis-à-vis de Dieu et de sa seigneurie sur notre vie. L'essence du péché se trouve dans ce désir que nous avons tous d'être notre propre petit seigneur. Et je crois que là, on commence à comprendre qu'effectivement, on est tous concernés. Nous tous qui, par nature, avons cette tendance si naturelle à vouloir regarder la vie avec nos propres filtres, sans Dieu. Mais à chaque fois que nous faisons cela, et nous le faisons probablement bien plus souvent que nous en avons l'impression, à chaque fois, nous manquons la cible voulue par Dieu. Et ça, manquer la cible, c'est justement la signification littérale du mot péché. Non, nous ne sommes pas aussi bien que nous le croyons nous-mêmes. Personne. Et donc, non, conséquence, nous n'avons pas l'argent, entre guillemets bien sûr, pour acheter notre salut. C'est comme, je prends une autre image, si on était tous à Biarritz, au bord de l'océan Atlantique, que le salut était de l'autre côté, en Amérique, et qu'il nous fallait l'atteindre en sautant. Vous visualisez ? Certains, sans doute, par une vie plus juste, une vie plus fidèle, certains pourraient faire un saut bien plus loin que les autres. Oui, certains pourraient être les Mike Powell du salut. 8,95 m quand même en 1991. Alors que d'autres se contenteraient avec déception de 3 ou 4 mètres. Oui, il y aurait un écart. Oui, il y a un écart entre moi et le pire des criminels. Oui. Mais pouvons-nous imaginer raisonnablement que cela fera une quelconque différence pour parcourir d'un seul bond les 7645 kilomètres qui nous séparent des côtes américaines ? Non. Mike Powell ou pas, le gouffre est bien trop grand. Nous ne sommes pas suffisants. Et alors, on peut bien sûr continuer à croire que Dieu va rabaisser ses exigences et s'adapter à nous. Oui, on peut continuer à croire qu'il va rapprocher les Amériques à 6 ou 7 mètres de la côte basque. On peut. Et beaucoup le croient, effectivement. Beaucoup croient, encore une fois, que Dieu s'adaptera à leurs péchés. Et c'est vrai, une fois de plus, que c'est tentant comme solution. Mais c'est pourtant une croyance sans aucun fondement biblique. Pourquoi alors persister à le croire? Mais au fond, je me dis qu'un tel raisonnement n'est finalement peut-être qu'une sorte d'échappatoire. Une échappatoire pour refuser de voir en face la dure vérité de notre perdition. Et pour éviter, en se rassurant comme on peut, de devoir aller plus loin et de se poser les bonnes questions. Oui, une échappatoire pour nier cette vérité si claire. Nous n'avons pas l'argent pour boire par nous-mêmes à l'eau de notre salut. Nos mérites et nos vies ne seront jamais suffisants. Alors, je vous le demande. Quel argent pensez-vous avoir en poche? Quel argent pensez-vous pouvoir mettre à votre compte devant Dieu? Voici une autre question à se poser, je crois. Et d'ailleurs, ici aussi, encore une fois, cette question, on pourra se la poser tout au long de notre vie chrétienne. Même quand on a compris une première fois que nous ne pouvions pas nous sauver seuls et que tout nous venait de Dieu. Car le naturel revient si vite au galop. Et on a si vite tendance, au quotidien, à nous fonder cette fois sur nos réussites et sur notre fidélité pour mériter les bénédictions de Dieu, par exemple. Oubliant que même là, nous n'avons pas plus d'argent et que tout est encore grâce. Vous qui n'avez pas d'argent, vous qui avez soif, et nous arrivons à présent à la dernière condition, elle sera évidente. Venez. Oui, venez. Si vous désirez dans votre cœur être sauvé, être avec Dieu, aujourd'hui et pour l'éternité, si vous avez compris que ce n'est pas par vous-même que vous y arriverez, eh bien alors, venez simplement. Venez et recevez ce que Dieu veut vous donner. Et alors, ça semble une évidence de dire ça. Mais pourtant, dans la pratique, une fois de plus, je ne sais pas si c'est si évident que ça. On peut vouloir être sauvé. On peut avoir compris qu'on n'y arrivera pas par nos propres moyens. Et pourtant, ne pas faire malgré tout, pour une raison ou pour une autre, ce pas décisif. Ce pas qui consiste à s'avancer pour de bon. Ce pas qui consiste, si on prend une autre image de la Bible, à ouvrir pleinement sa porte à Dieu. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe, dit Jésus. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Mais il faut ouvrir la porte. Et alors sans doute peut-il y avoir beaucoup de raisons pour laisser notre porte verrouillée. La peur de l'inconnu peut-être. Mais que vais-je trouver si je viens à Dieu? La peur d'être déçu ou trompé aussi. Et si ce qu'on me disait n'était pas vrai? Je vais peut-être attendre encore un peu pour être vraiment sûr. Ou la peur de s'engager tout simplement. Et si ça devait changer ma vie? Je suis plutôt bien comme ça. Et ainsi de suite. Oui, il y a sans doute plein de bonnes raisons pour ne pas venir. Mais le problème, c'est que si on ne vient pas, si on n'ouvre pas la porte, eh bien, personne ne l'ouvrira pour nous. Et on ne pourra donc jamais goûter à ce que Dieu offre. Il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Je n'insiste pas plus là-dessus aujourd'hui, car cette question sera l'objet de la troisième prédication de cette série, puisque le texte d'Ésaïe revient plus longuement sur cette problématique de la décision un peu plus loin. Nous aurons ainsi l'occasion d'en reparler. Mais voilà donc nos trois conditions rassemblées, nos trois nécessités préalables rassemblées. Avoir soif, avoir conscience qu'on n'a pas l'argent, et venir. Et vous aurez bien noté donc qu'elle n'enlève effectivement absolument rien à la gratuité. On ne paie rien quand on a soif. On ne paie rien quand on se rend compte qu'on n'a pas d'argent. Et on ne paie rien quand on vient. Non, normalement, c'est après tout ça qu'on passe à la caisse. Toutes ces premières choses, en fait, ne sont juste que des prises de conscience, que des élans de notre volonté. Parce que Dieu ne nous force et ne nous forcera jamais à boire malgré nous. Mais par contre, donc, une fois qu'elles sont là, une fois qu'on est censé passer à cette caisse, c'est là qu'on découvre que Dieu ne nous fait pas payer. Venez, achetez et mangez. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pour celui qui vient, Dieu offre à boire et à manger gratuitement. Pour celui qui vient, Dieu offre un salut, c'est-à-dire encore une fois, un accès auprès de lui, aujourd'hui et pour l'éternité, un salut complètement gratuit. C'est un don, c'est un cadeau, c'est ce qu'on appelle la grâce, c'est-à-dire la faveur imméritée que Dieu nous fait. Imméritée parce qu'on l'a dit, nous sommes incapables par nos mérites de la gagner. Le saut est bien trop grand. Faveur parce que Dieu nous la donne quand même. Et il fait cela sur une seule et unique base nous concernant. C'est notre foi. Notre foi, en fait, c'est juste ce qui regroupe quelque part ce dont on vient de parler. Oui, la foi, c'est avoir envie de Dieu dans nos vies. La foi, c'est reconnaître nos manquements et c'est compter sur lui pour les combler. Et la foi, c'est venir à lui, tout simplement. La foi, c'est saisir la solution que Dieu nous offre pour traverser l'océan, monter dans l'avion qu'il a spécialement affrété pour nous et qu'il conduit lui-même. Alors, la Bible, bien sûr, nous parle, en long et en large, de la beauté de ce salut gratuit à saisir par la foi. Nous allons juste relire quelques textes maintenant, parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes, en fait. Et puisque sans doute beaucoup parmi nous les connaissent déjà trop bien, je me suis permis de choisir une traduction moins courante pour qu'il puisse encore nous faire réagir, pour qu'il puisse encore nous toucher. Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Un salut, on le voit, où les œuvres, les mérites n'ont pas une once de place, pas la plus infime part. Rien ne vient de nous. Tout nous vient de Dieu. Oh, bien sûr, les œuvres ont une place ensuite dans la vie chrétienne, comme expression de notre amour pour Dieu, comme volonté d'obéir à ce Dieu qui a tant donné. Oui, elles ont une place, mais ailleurs qu'ici. Comme nous le lisons aussi dans cet autre texte. Si donc cela provient de la grâce, les œuvres ne jouent plus de rôle, car si nos mérites avaient quelque poids, parler de grâce serait un non-sens. Oui, le Dieu de la Bible est celui qui nous invite simplement à recevoir généreusement le don qu'il nous fait par grâce. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être déclarés justes aux yeux de Dieu, par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela fut possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Et ce dernier texte nous introduit bien dans la raison qui peut faire que ce salut gratuit est possible. Parce qu'on s'en doute, il doit bien y avoir une raison. Car Dieu ne peut pas choisir arbitrairement de ne pas tenir compte de notre péché. Parce que sinon, il ne serait pas juste, tout simplement. Dieu ne serait pas juste si le péché pouvait ainsi demeurer impuni. L'eau, le vin, le lait, il fallait bien que quelqu'un les achète pour nous en faire profiter gratuitement. Il fallait bien que quelqu'un paie pour que cela soit possible. Et cela fut possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait. Notre salut gratuit est devenu possible parce que Jésus a tout payé à notre place. Jésus a payé notre repas d'éternité. Pour reprendre l'image de l'océan, nous pourrions dire que Jésus est pour nous comme le carburant, le kérosène dans notre avion, celui qui va nous permettre de passer de l'autre côté. Jésus a tout payé à la croix et il nous offre tout par grâce. Et pourquoi fait-il cela? Eh bien, juste parce qu'il nous aime à la folie. Voici la bonne nouvelle de Pâques. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui place sa confiance en lui n'aura pas à subir de condamnation. Voici la plus belle promesse de toute la Bible. Et voici ce que nous pouvons célébrer à Pâques et à chaque instant de notre vie. Le salut gratuit de Jésus-Christ, offert par amour. Une fois seul, un salut gratuit. Voici la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, champion ou pas de saut en longueur. Une bonne nouvelle, on l'a dit, tellement unique dans ce monde. Que ferais-je de cette bonne nouvelle? Alors que nous terminons, ces questions se posent encore et encore pour chacun d'entre nous. Ai-je soif de Dieu? Ai-je conscience d'être sans argent? Ai-je envie de venir à lui? Ai-je envie de recevoir ce cadeau gratuit? Choisirais-je d'avoir foi en lui? Choisirais-je de l'accueillir au cœur de ma vie? Et si j'ai déjà fait tout cela, aurais-je à cœur de persévérer dans cette voie et dans une vie qui dépend jour après jour de ce don de Dieu? Voici les questions qui se trouvent devant nous. Et donc, pour continuer à nous aider à y répondre, nous poursuivrons les fois prochaines en parlant de ce si grand salut. Nous verrons dans 15 jours sa suffisance, et notamment en quoi il nous libère pleinement de la condamnation du péché sur nos vies. Une réalité profonde à saisir là aussi. Nous dirons également quelques mots plus approfondis sur cette foi, seule nécessité pour être sauvé. Quelle est-elle vraiment? En quoi consiste-t-elle? Et puis nous regarderons enfin vers l'après, vers ce à quoi ce salut appelle chacune de nos vies. Un si grand salut. Je prie que chacun d'entre nous ici, sans exception, puisse le saisir à pleine main. Que Dieu nous en fasse la grâce et que cela tourne à sa gloire. Amen.